Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours à la rencontre des personnages de la Bible que nous avons commencé depuis le début de l'année. Et ce matin, je vous propose de rencontrer Mardoché. Vous connaissez peut-être un peu plus sa cousine Esther, mais aujourd'hui, on va essayer de découvrir cet homme-là, Mardoché. Alors, je vais commencer par vous redonner un peu de contexte. L'histoire du livre d'Esther se déroule à Suse, la capitale de l'Empire perse. On est en moins 483. Suse, c'est situé dans l'ouest de l'Iran actuel, pas très loin du Koweït. En gros, vous prenez Jérusalem, 1500 km plein est, et vous y êtes. Ça fait un siècle environ que le royaume de Juda a été déporté à Babylone. Et comme les royaumes humains ne sont pas éternels, ce sont maintenant les Mèdes et les Perses qui ont pris possession de la région. Peu de temps après leur victoire, sur Babylone, donc un décret a permis le retour d'exil. Certains juifs rentrent, d'autres continuent de vivre à l'étranger, hors du pays promis. C'est le cas de Mardoché. L'Église pose un certain nombre de questions au peuple hébreu. Comment les Babyloniens ont-ils pu nous vaincre? Dieu, dont nous sommes le peuple choisi, a-t-il été vaincu? Dieu veut-il encore de nous? Dieu s'occupera-t-il toujours de son peuple? Qu'advient-il des promesses qui ont été faites à Abraham, à David, etc. Y a-t-il en fait encore un espoir? Et c'est dans ce contexte que se déroule l'histoire de Mardoché. Comme le livre d'Esther fait 10 chapitres et que l'on parle de Mardoché dans tous, sauf le premier, je vous propose de commencer par vous remettre en tête l'histoire complète et puis ensuite on fera quelques zooms à la rencontre de Mardoché. Alors, le récit commence avec 6 mois de banquet. Xerxès, l'empereur des Perses et des Mèdes, décide alors à la fin de répudier sa femme, la reine Vasti, et puis, pris de remords quelque temps plus tard, mais comme la loi des Perses et des Mèdes est irrévocable, il organise une sélection de la future reine. Esther, orpheline, cousine de Mardoché et adoptée par ce dernier, fait partie des prétendantes choisies, et elle devient reine. Mardoché réussit à sauver la vie de l'empereur en dénonçant un complot qu'il a entendu se tramer parmi les eunuques qui gèrent le harem de l'empereur. Peu de temps après, un nouveau premier ministre est nommé, Aman. Mardoché refuse de s'incliner devant lui, ce qui le met en colère. Apprenant que Mardoché est juif, Aman prépare l'extermination complète des juifs dans tout l'empire. Mardoché demande alors à Esther l'impératrice d'intervenir. Puis Xerxès, au cours d'une insomnie, se fait lire l'histoire du complot déjoué par Mardoché et décide de l'honorer. C'est Aman qui doit le faire parader dans Suse une journée entière. Esther finalement dénonce le complot d'Aman à l'empereur. Les juifs sont alors autorisés à se défendre. Mardoché est nommé premier ministre à la place d'Aman qui est exécuté. Et ce miraculeux retournement de situation est célébré dans tout l'empire. C'est la fête juive de Pourim. Alors, voilà pour l'histoire. Je pense que presque chaque année, enfant, on me l'a raconté à l'école du dimanche ou en colonie de vacances. Le courage d'Esther, la foi de Mardoché m'ont été maintes et maintes fois vantés. Et aujourd'hui, je voudrais nous poser une première question, c'est qui est vraiment ce Mardoché? Est-ce un tel modèle de vertu, comme on peut parfois le présenter? Je vous propose de lire ensemble Esther au chapitre 2, les versets 5 à 7. Or, dans la citadelle de Suse, vivait un juif nommé Mardoché. Il était fils de Yaïr et descendant de Shimei et de Kish, de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem, avec les autres exilés, emmenés par Nabucodonosor, roi de Babylone, en même temps que Yéconia, roi de Juda. Mardoché avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée comme sa fille. Puis, plus loin, au verset 21, « À cette époque, alors que Mardoché exerçait donc des fonctions au palais impérial, deux eunuques de l'empereur, Bigthan et Teresh, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur Xerxès et cherchèrent à l'assassiner. Mardoché en eut connaissance. » Et il en avertit l'impératrice Esther, qui mit l'empereur au courant de la part de Mardoché. Après enquête, l'information se révéla exacte. Les deux coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le livre des annales en présence de l'empereur. Alors, l'image classique que l'on a, et qui est vraie, c'est ce que nous rapportent ces extraits du chapitre 2. Mardoché est un homme au grand cœur. Il accueille sa cousine orpheline, il s'occupe d'elle, il veille sur elle. C'est plutôt un bel exemple, non ? De même, son honnêteté, sa loyauté vis-à-vis de l'empereur sont des exemples. Malgré que Xerxès soit un tyran, il entend parler d'un complot, alors ni une ni deux, il le fait dénoncer et les coupables sont punis. L'empereur est sauf. Mardoché a-t-il des qualités ? Oui, bien sûr, on peut le voir, loyauté, accueil, etc. C'est, semble-t-il, un type bien, mais il me semble aussi plus complexe que ça. Tout d'abord, comme je l'ai dit en introduction, cela fait maintenant une trentaine d'années que le retour des Juifs à Jérusalem est autorisé. Et il est où Mardoché ? À Jérusalem ? Non, 1500 km de là. 1500 km de la terre promise par Dieu à son peuple. L'autre point que je voulais questionner, c'est celui du mariage d'Esther. Le seul élément que nous livre le texte, c'est que Mardoché allait prendre des nouvelles de sa cousine chaque jour. Alors que le mariage entre juifs et non-juifs est interdit par la loi, le texte nous parle d'aucune manière d'un quelconque désaccord entre ce qui arrive à Esther et ses convictions. Sa cousine va faire partie des 400 femmes que l'empereur va essayer. Ce que le texte nous rapporte, c'est juste que Mardoché se contente de prendre des nouvelles chaque jour. Devant le drame terrible qui se joue, pour celle qu'il a recueillie comme sa fille, j'ai l'impression que sa conscience, ses convictions ne sont pas bien épaisses. En fait, j'ai l'impression que dans ce début de l'histoire, Mardoché, il est un peu comme nous parfois. Il ne veut pas faire de vagues. Il est bien dans son train-train quotidien. En fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que parfois, lorsque je lis la Bible, j'y cherche un peu des super-héros. Je ne sais pas si ça vous rassure, vous aussi, mais un tel a fait preuve de sagesse et il a été richement béni. Un tel a fait preuve d'humilité et il a été élevé. Je sais que lorsque je lis, j'ai plus tendance à me souvenir des succès, des réussites, que des échecs. Peut-être parce que j'aime pas regarder au mien. Mais en tout cas, au travers de la série des personnages que nous parcourons depuis le début d'année, je me suis rendu compte que sur la Terre, un super-héros, il n'y en a eu qu'un. C'est Jésus. Ce ne sera pas sur cette Terre que quiconque sera à la hauteur. Tous les autres, hommes et femmes, ont leurs failles, leurs limites, leurs difficultés, leurs échecs. Un seul est au-delà. Mardoché semble donc comme les autres. Nous avons à apprendre des victoires, des réussites pour les imiter, mais aussi des échecs, des écueils, des manquements pour les éviter. Alors, dans cette première partie de l'histoire, on voit un Mardoché comme vous et moi, mais aussi un Dieu qui œuvre en sous-main. Son nom n'est pas cité du tout dans le livre, mais les hasards s'accumulent. Il se sert de toutes les situations pour arriver au but qu'il a voulu. Alors, le deuxième épisode que nous allons regarder, c'est lorsque Mardoché refuse de s'agenouiller devant Aman. Je vous propose de lire au chapitre 3, des versets 1 à 7. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils de Hammedata du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandèrent « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, il lui disait cela, mais Mardoché ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Aman pour voir si Mardoché s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Quand Aman eut constaté que Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardoché appartenait, et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardoché seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardoché, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan de la 12e année du règne de Xerxès, Aman fit tirer au sort, ce qui se dit pour, et en passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre. Le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le texte ne nous dit pas explicitement pourquoi Mardoché refuse de s'incliner devant Aman. On peut cependant lire entre les lignes deux raisons. La première, c'est que c'est lié à son identité de juif. Il refuse de se prosterner devant un homme. Et la seconde, elle est liée aux origines de Aman et de Mardoché. Le texte nous dit que Aman vient du pays d'Agag. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Agag. Personne. Alors je vous propose de faire un saut dans le passé et de retourner en Deutéronome 25. C'est Moïse qui s'adresse au peuple juif. Rappelez-vous comment les Amalécites vous ont traité quand vous étiez en chemin après votre sortie d'Égypte. Sans aucune crainte de Dieu, ils vous ont rejoint sur votre route et ont attaqué par derrière les éclopés qui fermaient votre marche, alors que vous étiez épuisés et à bout de force. Lorsque l'Éternel, votre Dieu, vous aura assuré une existence paisible en vous délivrant de tous vos ennemis d'alentour, dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine pour que vous le possédiez, vous détruirez les Amalécites de dessous le ciel pour effacer leurs souvenirs. N'oubliez pas de faire cela. Du coup, plus tard, le moment est arrivé. Et en 1 Samuel 15, il nous est raconté que Saül désobéit à Dieu. Et au lieu de détruire totalement les Amalécites, il a gardé en vie leur roi, Agag. Et il a aussi prélevé un butin. Ça scellera la chute de Saül. Et si vous faites attention tout à l'heure, Mardoché, il nous était présenté comme un descendant de Kish. Kish, c'est le père de Saül. On a donc ce double lien. D'un côté entre Aman et Agag, de l'autre côté entre Mardoché et Saül. Et le conflit personnel entre Mardoché et Aman semble s'inscrire dans ce conflit plus grand entre Saül et Agag, entre Israël et les Amalécites. Et Aman, c'est lorsqu'il apprend que Mardoché est juif qu'il est pris de folie meurtrière. Un génocide se met en place. Il veut l'extermination complète du peuple juif. Or Dieu a son plan, et ce plan passe par le peuple juif. À Abraham, il a dit en Genèse 12, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » À Moïse, il a dit en Lévitique 26, « Je mettrai ma demeure au milieu de vous, et je ne vous rejetterai pas. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » À David, en 2 Samuel 7, « J'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je le maintiendrai à toujours son trône royal. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Dieu a un plan pour bénir et sauver l'humanité. Et ce plan passe par le peuple juif, au sein duquel viendra le Sauveur. Alors, si Aman extermine ce peuple juif, le plan tombe à l'eau. La promesse ne pourrait plus se réaliser. Mais Dieu veille. Il agit discrètement pour contrecarrer les plans d'Aman. Vous voyez, même le hasard est contre lui. Il lui faut attendre presque un an pour mettre à exécution son plan machiavélique. On voit donc que Dieu se sert des défauts des uns et des autres pour faire avancer son plan. Mais on va voir qu'il se sert aussi de ceux qui croient en ses promesses. Et Mardoché va en quelque sorte se réveiller. Je propose de lire au chapitre 4. Lorsque Mardoché apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Puis il alla jusque devant la porte du palais impérial, par laquelle personne n'avait le droit d'entrer, revêtu d'un habit de toile de sac. Dans chaque province, à mesure qu'y parvenait l'ordonnance et le décret de l'empereur, c'était comme un deuil qui frappait les Juifs. Ils se mettaient à jeûner, à pleurer, à pousser des cris. Beaucoup se couchaient sur des toiles de sac et de la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent la mettre au courant, et l'impératrice en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour qu'il s'habille correctement et enlève l'habit de toile de sac qu'il portait. Mais il les refusa. La tristesse de Mardoché est profonde et sincère. Il a pris conscience du drame qui se joue. Il se repent, il crie à Dieu. C'est primordial, crie à Dieu, l'appeler au secours. Sa douleur est bien réelle. Et elle me pousse aussi à réfléchir. Parfois, on préfère les garder pour nous, nos douleurs. En arrivant le dimanche matin à l'église, on vous dit « Salut Simon, ça va ?» Au fond de nous, nous sommes comme Mardoché, à vouloir déchirer nos vêtements, nous couvrir de cendres. Notre douleur est immense. Et on répond d'un laconique « Ça va, et toi ?» Pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt à partager ces choses-là? Peut-être pour pas se prendre la même réponse qu'Esther a donnée à Mardoché. « Tiens, prends ces vêtements, rhabille-toi. Fais comme si ta douleur n'existait pas. » Ça a pu m'arriver de répondre au « ça va » par un « franchement non, pas trop ces derniers temps ». Ça n'a pas été forcément facile, mais j'ai rarement été déçu de ne pas garder en moi les soucis que je vivais. Sans nécessairement devoir partager le détail de la situation. Quand, comme le disait Luc en introduction, c'est sans exhibitionnisme. Mais il y a parfois de simples accolades qui m'ont fait plus de bien que certaines heures de discussion. C'est Dieu qui est maître, mais le soutien fraternel est efficace aussi dans ces temps-là. Mais c'est pas ce que Mardoché reçoit là. Il va voir sa cousine et se fait rembarrer. Elle n'a pas pris conscience de la gravité de la situation. C'est là qu'apparaît Attac, qui va avoir un rôle déterminant, à son insu, dans le drame qui se trame. En faisant les allers-retours entre Mardoché et Esther, il va transmettre à la reine le besoin de Dieu. Et elle n'est pas facile à convaincre. Sa première réaction est de dire qu'elle ne peut rien faire. Elle risquerait sa vie en allant voir l'empereur. Alors, nouvel aller-retour d'Attac, et on peut lire « Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire. Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ?» Esther est finalement convaincue. Elle va mettre en jeu sa place de reine, sa vie, pour tenter de sauver le peuple. Mais elle ne le fait pas seule. 3 jours et 3 nuits de jeûne pour elle et tous les juifs de la capitale. C'est à Dieu qu'ils remettent leur sort. Mardoché l'avait bien compris. Dieu a son plan et il agit. Avec ou sans nous. Mais Mardoché a foi en la délivrance du peuple de Dieu. Et nous, en quelle promesse avons-nous foi? À quelle promesse faisons-nous confiance? Et dans quelle situation notre confiance en Dieu va-t-elle se réveiller? Les promesses sont nombreuses. Et sur ce que je vais dire là, je m'inclus bien entendu dedans. Vous pensez être seul dans votre souffrance, vos difficultés? Matthieu 28, 20, Jésus dit « Je suis moi-même avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous avez la tête pleine parce qu'il vous attend demain, la semaine qui vient? Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Dieu, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous vivez dans la culpabilité? Vous pensez ne pas pouvoir être en règle vis-à-vis de Dieu? Romains 5. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Et je pourrais en citer de nombreuses autres. La question qui se pose, c'est qu'attendons-nous pour y croire, pour faire confiance à Dieu? Faut-il attendre que nous soyons plus capables de gérer par nous-mêmes les petits incidents de nos vies? Faut-il attendre que, comme Mardoché, nous soyons confrontés à un malheur qui nous dépasse? Alors, pour conclure, je voudrais juste mettre en lumière un dernier élément concernant Mardoché. Ce que l'on voit dans la fin du livre, c'est que Mardoché, en récompense de ses services, obtient le poste de Premier ministre. Et l'auteur du livre conclut en faisant remarquer qu'avec Mardochée s'ouvre une ère de paix pour le peuple. Mardochée semblait au début centré sur lui-même, ne pas faire de vagues, passer discrètement dans cette société qui ne connaît pas Dieu. Désormais, on voit qu'il agit pour les autres. C'est un bel exemple de vie transformée. Et comment ça s'est fait ? Au travers de la mise en pratique de la foi en les promesses de Dieu. Alors voilà ce livre d'Esther que nous avons rapidement survolé ce matin, et ce personnage de Mardochée en particulier nous en disent beaucoup au sujet de la vie dans un contexte de société qui refuse Dieu. Quelle est notre attitude ? Où est notre confiance en Dieu ? Quels risques sommes-nous prêts à vivre ? Préférons-nous cacher notre identité ? Les temps peuvent être difficiles, mais les promesses de Dieu sont là. Elles sont toujours d'actualité. Dieu agit pour amener à la réalisation de ses promesses. Il agit au travers de personnes pas meilleures, pas pires que vous ou moi, Mardochée, Esther, et même Attaque. Dieu sauve, on l'a vu tout à l'heure. Le seul vrai héros de l'histoire, ce ne sont pas les hommes, c'est Christ. Alors que nous puissions encore, cette semaine, faire nôtre les promesses de Dieu. Amen.